Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et Chodesh Tov, en cette journée qui démarre un nouveau mois. Si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai raison. Le mois chez nous, c'est un vrai commencement. On peut remettre les compteurs à zéro chaque mois. Et donc, on ne va pas oublier de se dire Chodesh Tov, parce que c'est un très beau moment. On vit deux belles choses ce soir, le début d'un nouveau mois et bien sûr Shabbat. Alors, Raveli Lemel, comme chaque semaine, on va avec vous survoler la paracha de la semaine, le passage que nous lisons dans la communauté. Et donc, on arrive à Matot Massé. En fait, il y en a deux. Et pour nous permettre de recoller aux Israéliens, pour qu'ils vraiment décidément qu'un seul peuple. Et on parle notamment de la question des vœux. Et il se trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, c'est qu'un vœu, qui pourrait sembler comme quelque chose, a fortiori d'ailleurs, si c'est juste par la parole, comme voilà, j'ai fait un vœu, j'ai voulu, j'ai pas pu, c'est pas grave. Non, pour le judaïsme, un vœu, c'est un acte important. Et vous allez nous dire maintenant pourquoi.
Oui, tout à fait, Bernard. En effet, cette notion de vœu est quelque chose qui est très très particulier dans la Torah. La Torah, en vérité, dans cette paracha, va évoquer à la fois ce qu'on appelle l'univers des nedarim, qu'on traduit par vœu. Mais en vérité, c'est pas si simple. Hein. Et aussi les shvuot, c'est-à-dire les serments. Alors, évidemment, dans notre univers, on dit un vœu, voilà, quelqu'un dit « je fais le vœu de ceci, ceci, cela ». Et puis comme vous venez de le dire, d'ailleurs certaines personnes vont dire « bon, j'ai pris le vœu, j'ai fait le vœu, et puis voilà, je le fais, je le fais, je le fais pas, je le fais pas », alors qu'en vérité, quand vous regardez dans la Torah, eh bien les choses sont pas du tout la même chose, puisque quand on fait un vœu, c'est comme si au fond on avait créé un nouveau statut au niveau de la loi. On s'impose à soi, à d'autres personnes, un certain nombre de règles nouvelles. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent bien que quand quelqu'un transgresse un vœu, eh bien, il a une sanction réelle, comme s'il avait transgressé un interdit de la Torah. Alors, de quoi il s'agit ici? Eh bien, quelqu'un peut, par exemple, faire différents types de vœux. Le vœu d'amener, par exemple, au Beth Amikdash, au temple, une offrande. Ça peut être aussi le vœu de donner de l'argent à une synagogue ou à une noble cause. Et puis, on peut aussi faire des vœux dans lesquels on s'interdit quelque chose. On dit que telle et telle chose m'est interdite, comme consommer tel et tel produit. Au passage, évidemment, il ne s'agit pas de s'interdire quelque chose que la Torah interdit. Et cet objet sur lequel on a décidé qu'il ne pouvait pas faire partie de notre alimentation, par exemple, eh bien, un statut particulier, il nous est interdit, il a un statut d'éléments interdits. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si banal. Alors la Torah justement nous dit « lo yachel devaro », c'est-à-dire on ne peut pas littéralement profaner sa parole. Intéressant de voir que le terme que l'on utilise ici, c'est le terme de « chol ». « Chol », c'est ce qui est profane. En deux mots, enfin en d'autres mots, pardonnez-moi, eh bien ça revient à dire que la parole d'engagement a une dimension de « kdusha », une dimension de « sainteté ». Et en effet, la parole est créatrice, elle a inscrit une réalité nouvelle, c'est-à-dire qu'on a fait un vœu par rapport à une chose dont on ne veut pas consommer, eh bien, ça y est, cette chose-là prend un statut différent. Et ça, je crois que c'est un point quand même extrêmement important, à savoir que nos mots nous engagent de manière très très forte parce qu'ils construisent une nouvelle réalité. Vous savez que il y a aussi une discussion parmi les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, pour savoir si quelqu'un dans son rêve a fait un vœu. Eh bien, on dit que ce rêve n'est pas juste un rêve. Il y a peut-être, en effet, ici, une forme d'engagement. Alors, ça se discute, mais même y penser, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas banal. D'ailleurs, on va le voir, lorsqu'imaginez, vous êtes dans un endroit dans lequel on fait un appel de fonds, et oui, on en revient toujours à l'argent, vous le savez bien, et on pense, on dit, ah ben tiens, je vais donner telle et telle chose. Même si on ne l'a pas dit, c'est pas si simple. Alors évidemment, je ne vais pas dire ici que vous avez une obligation formelle, mais c'est quelque chose qui se discute et qui n'est pas si banal. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on a fait un vœu ? On a fait un vœu et bien on se rend compte qu'au fond, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Alors, rappelons-nous d'abord de ce verset qui nous dit « Tov shelotidor, michetidor, velot shalem ». Il est bien de ne pas faire un vœu, plutôt que de faire un vœu et de ne pas le payer, de ne pas accomplir sa parole. Les maîtres du Talmud, d'ailleurs vous savez que vous avez tout un traité du Talmud sur les vœux, un autre sur les serments, le traité de Nedarim, le traité de Shavuot, pas Shavuot la fête, hein, Shavuot, c'est-à-dire les serments. On nous dit des choses qui sont pas banales du tout par rapport à quelqu'un qui serait un petit peu léger avec sa parole et avec ses vœux. Alors, vous savez que une première manière de fonctionner, c'est de dire « bli neder », je prends cet engagement, mais sans une forme de vœu, d'accord ?« Bli neder », que ça ne soit pas considéré comme un vœu. Je rappelle que toutes les années, avant Rosh Hashanah ou avant Kippour, suivant les traditions, certains le font avant Rosh Hashanah, avant Kippour, il y a ce qu'on appelle « hatarat nedarim », le moment dans lequel on se délivre de nos vœux, alors qu'on soit bien clair. Il s'agit d'une... pas d'une prière, d'ailleurs c'est ce fameux kol nidré, on est là, mais kol nidré c'est ben, tout simplement le moment dans lequel on dit ben, tous les vœux qu'on a fait, eh bien qu'ils soient nuls et non avenus. Alors attention, il ne s'agit absolument pas des vœux que l'on connaît, cela on ne peut pas les annuler comme ça et on va voir s'il y a une procédure. Non, peut-être qu'un jour sans nous en rendre compte ou alors on a totalement oublié qu'on a pris un engagement, alors on demande voilà, qu'il soit annulé, mais si on s'en rappelle il faut l'assumer quand même. Et puis, on parle là-bas aussi des habitudes, des bonnes habitudes qu'on aurait prises et qui auraient peut-être une forme de vœu. On ne va pas rentrer dans les détails de la loi. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on a fait un vœu et qu'on le regrette, on réalise qu'au fond, eh bien, on n'aurait peut-être pas dû le faire parce qu'on ne va pas pouvoir l'assumer. Alors, déjà, si c'est un vœu d'engagement financier, c'est très complexe. Mais on va imaginer plus quelqu'un qui a pris sur lui allez, de ne pas manger telle et telle chose, de ne pas mettre tel ou tel habit. Eh bien, peut-il maintenant se délier de son vœu ? Alors oui, il y a cette possibilité, mais c'est pas juste comme ça. Il va falloir qu'il rencontre trois personnes dont au moins une d'entre elles connaît bien les lois sur les vœux. Et il ne s'agit pas de formules magiques. Il va les voir, il doit dire à l'un des trois quel est son vœu, d'accord ? On n'est pas obligé de le délivrer aux trois, les trois ne sont pas obligés de connaître le vœu, au moins un des trois. Et cette personne-là, après, va faire ce que l'on appelle un système, alors halachique, dans la loi, on dit « petar v'charata ». Les spécialistes auront compris de quoi je parle, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu plus de quoi il s'agit. Eh bien, on va ouvrir une porte vers le regret, ça serait ça un petit peu la traduction. On va joindre ici deux concepts que l'on trouve dans le traité de Nedarim, dans lesquels on va dire un petit peu la chose suivante à la personne. Si tu avais su qu'un jour tu regretterais ce vœu, pour une bonne raison, parce que vraiment tu te rends compte qu'il ne fallait pas le faire, que c'est trop complexe, est-ce que tu l'aurais fait ? Et si la personne, en toute conscience et de manière vraie, nous dit oui, en effet, si j'avais pris la mesure de ce que ça allait représenter et de la difficulté que j'aurais de le mettre en place, eh bien, je n'aurais pas fait ce vœu. Dans ce cas-là, on peut faire en effet, et faire, pardonnez-moi, en effet, ce que l'on appelle une hatarat nedarim, c'est-à-dire délier la personne de ses vœux. Mais on n'est pas très pour. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas que les gens s'amusent avec cela et ils pensent que les mots qu'ils prononcent, eh bien, sont du tout et du n'importe quoi. D'ailleurs, il est connu que les maîtres du peuple juif n'avait pas l'habitude de prendre des engagements. Il ne disait pas « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Non, il faisait les choses, tout simplement. C'est-à-dire que il savait très bien que on peut prendre des engagements et puis parfois, pour certaines raisons, ne pas réussir à les tenir. Alors, à quoi bon cette parole ? Quelque part, d'ailleurs, vous savez que souvent, malheureusement, les vœux que certaines personnes font, surtout lorsqu'il s'agit d'engagements financiers, eh bien, les personnes le font parce que tout simplement, ils en ressentent, j'ai presque envie de dire, le besoin. Et puis parfois, certaines personnes, eh bien, une fois qu'elles ont dit qu'elles allaient donner, eh bien, pour elles, c'est comme si elles avaient donné. Et puis elles oublient. Et c'est très ennuyeux. D'ailleurs, je sais que mon père Zichrono Livracha, que son âme soit bénie, là où il se trouve, eh bien, avait l'habitude, lorsqu'il faisait une prière dans un cimetière dans lequel on dit « Et la communauté ici s'engage pour l'élévation de l'âme du défunt à donner de la tzedaka, de la charité », eh bien, il disait à la fois blineder sans engagement formel, mais il avait toujours l'habitude, eh bien, tout de suite après la cérémonie, de prendre de son argent et de donner à la charité, de dire ben, « je le donne pour tout le monde ». C'est-à-dire que je me fais représentant de toutes les personnes qui sont là, comme ça, eh bien, au moins je suis sûr que personne ne se retrouvera pris par une forme d'engagement. Alors là-bas, bien sûr, ça se discute, puisque c'est une personne qui dit les choses, mais les autres disent « Amen hein. ». Comme ils disent « Amen », quelque part, ils s'engagent. C'est la raison pour laquelle il est bien, dans une prière de ce type, de dire « Blineder ». Il s'engage à donner, mais sans forme de vœu. Donc, ils disent, voilà, on va donner, mais on veut pas que c'est le statut du vœu. Comme ça, au moins, eh bien, s'il y a une difficulté, eh bien, la personne ne se retrouvera pas à avoir transgressé. Alors, aujourd'hui, on était peut-être sur une dimension un petit peu plus technique et halakhique au niveau de la loi, mais c'est peut-être, important de prendre la mesure de ce que représentent les choses et surtout, comme on l'a dit en introduction, de la valeur et de l'importance de la parole. Prendre un engagement, c'est quelque chose de fort. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, c'est quoi un mariage ? Eh bien, lorsque une épouse accepte de recevoir cette fameuse bague, ce sont les mots que prononce son futur époux qui vont créer un lien indéfectible entre eux. Donc, les mots ont un impact, ont une puissance. À nous de nous rappeler de les utiliser avec intelligence, sagesse et parcimonie. Et lorsqu'il s'agit en effet d'engagement dans l'univers de la Torah et d'Amitsot, eh bien de faire en telle sorte que cet engagement-là soit un engagement qui ne passe pas nécessairement par une parole, mais qu'il soit capable de s'exprimer en premier lieu à travers un acte et une action. C'est peut-être comme cela que l'on arrive le mieux à créer et à construire dans le peuple d'Israël.
Ravi Lilemel, merci. Moi, j'ai plein de vœux à vous formuler. C'est un bon Shabbat à tous les auditeurs aussi, un bon mois de Av, et puis aussi un bon été. C'est une période tout à fait particulière qui est aussi l'occasion de se retrouver et de retrouver ceux qu'on aime, ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, moi, j'ai plein de vœux. J'espère qu'ils seront tous exaucés. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mevorach à toutes et à tous.
Shabbat Shalom, que des bonnes choses en ce jour de Rosh Chodesh. En plus, il est deux fois plus beau ce jour. Alors, Rav Mordechai Biton, on continue à survoler la paracha de notre semaine. Et vous voulez revenir, vous, sur l'épisode qui nous montre que deux tribus ont décidé de ne pas traverser la rivière, de ne pas rentrer en terre d'Israël, et il y a un dialogue entre eux et Moshe Rabbeinu. Et d'abord déjà, c'est très surprenant, ils ne veulent pas. Ils disent « Non, nous, ça nous plaît bien ici, on va rester là. » C'est très étonnant, vous allez nous expliquer. Et Moshe Rabbeinu accepte, en plus. Mais alors, justement, il y a tout un enseignement, parce que l'histoire est un peu inattendue. Même on a envie de dire un peu dingue. Et vous dites « Oui, mais là, on voit quelque chose d'extraordinaire qui est lié à l'éducation. » À l'éducation, à la façon dont on doit éduquer. Donc, on vous écoute.
Effectivement, alors quand on lit au chapitre 32, la paracha Matot, on lit deux parachas en France hein, cette année, puisqu'on va se rejoindre au Shabbat prochain, donc Matot et Massé. Dans la paracha Matot, vers chapitre 32, on démarre sur une constatation, a priori bizarre, Miknerav, Ayal et Bnei Reuven, les Bnei Gad et Bnei Reuven, les tribus de Reuven et Gad, avaient beaucoup, beaucoup de troupeaux, c'était le butin qu'ils avaient réussi à faire dans les guerres avec Midian. Bon, très bien. Et puis la Torah continue et elle dit, voilà, ils vont aller voir Moshe et ils vont dire, écoute, nous, les terres qui sont au-delà du Jourdain, donc qui ne sont pas en Eretz Israël, nous intéressent. Elles sont très bien pour nos troupeaux. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu va s'emporter contre eux. Tarbut Anashim Chataim, vous êtes des fauteurs, vous incarnez une culture de fauteurs. Vos pères ont déjà fait ça il y a 40 ans. Et à cause de ça, on a erré dans les airs pendant 40 ans. Vous allez faire exactement la même chose. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël. Et là, les Bnei Gad, les tribus Gad et Reuven disent, mais si, on est tout à fait d'accord de rentrer, d'aller faire la guerre, d'aider les Bnei Israël à conquérir. Mais en fait, au travers de leurs propos, on va discerner ce qui en fait a réellement mis en colère Moshe Rabbeinu. Parce que pour rentrer en Eretz Israël, pour prendre possession d'Eretz Israël, il ne faut pas seulement prendre sur soi d'observer les mitzvot, les lois liées à Eretz Israël, prendre sur soi d'observer la Torah dans un monde concret, pratique, matériel, dans le cadre d'Eretz Israël, mais il faut aussi prendre sur soi de la transmettre. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 16 de ce chapitre 32, Vaïkshu est là, il s'approche de lui, donc les dirigeants de tribus de Gad et Reuven, et ils vont lui dire la chose suivante. Gidrot son nivnel miknenu, on va construire des enclos pour nos troupeaux et également des villes pour nos enfants. Et là s'ensuit un dialogue, et au chapitre 20, au verset 24, Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a donc accepté que ces tribus prennent possession de ces terres qui sont en dehors du Jourdain et ne prennent pas de part dans la répartition des Eretz Israël, va dire la chose suivante. Benou Lachem, construisez pour vous, Harim et Tapechem, des villes pour vos enfants et des enclos pour vos troupeaux. Il inverse les choses. Quand eux lui disent, bon, très bien, on va commencer par s'installer ici, ensuite on ira faire la guerre, on va installer d'abord des enclos pour notre troupeau, on va s'occuper de notre argent, et ensuite après on construira des villes pour nos enfants, ensuite après on s'occupera de nos enfants. Et là, quand Moshe Rabbeinu, après avoir discuté avec eux, accepte les conditions, il leur dit, non, vous commencez d'abord par construire des villes pour vos enfants, vous vous occupez d'abord de vos enfants et de vos familles, et après vous vous occuperez trivialement de votre pognon, de votre argent, de vos troupeaux. En fait, le dialogue, qu'est-ce qu'il dit ici ? Moshe Rabbeinu leur dit, vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose chez vous qui est un psoul. Il y a quelque chose ici, dans votre démarche ici, qui n'est pas bon, qui ne procède pas de quelque chose de profondément bon. Il y a quelque chose ici où vous avez complètement perdu la direction de pensée et la direction d'un bon projet de vie. Vous vous occupez d'abord de votre argent, et vous êtes obsédé par votre argent, et vous êtes prêt à renoncer à Eretz Israël, mais vous êtes même prêt à renoncer à la priorité qu'on doit donner à l'éducation de ses enfants. D'abord l'argent, et ensuite après les enfants. Et donc, Moshe Rabbeinu leur dit non. Vous allez prendre possession de ces terres, mais d'abord, vous allez commencer par construire des villes pour vos enfants. Installez vos enfants. Mais derrière cette installation, il y a cette idée d'installer ces femmes et ces enfants, de leur permettre d'avoir une éducation quand eux seront occupés pendant 14 ans à conquérir Eretz Israël et à participer au partage d'Eretz Israël. D'abord, vous allez faire en sorte que vos enfants vivent dans des conditions, que vos familles et vos enfants vivent dans des conditions matérielles, psychiques, mentales, spirituelles, viables, pour pouvoir s'épanouir sur le plan spirituel. Ensuite, après, vous vous occuperez de faire des enclos pour votre troupeau. Et là, il y a ici un enseignement qui est un enseignement pour les générations futures. Vous savez que les Bnei Gad et Bnei Reuven vont être les premières tribus qui vont être exilées. Elles vont être exilées 8 ans avant les autres tribus. Qu'est-ce que les Bnei Gad et les Bnei Reuven, les tribus de Gad et Reuven, les hommes de Gad et Reuven vont retrouver une fois qu'ils ont conquis Eretz Israël et qu'ils reviennent là-bas sur leur terre? Ils trouvent des enfants qui sont très agités, très meurtriers. Les meurtres s'étaient plus facilement développés dans ces endroits-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'éducation. Et alors, à un moment donné, se rendant compte de la faillite éducative que ça représentait, sur ces territoires, on va construire une réplique du Mishkan, du tabernacle, pour qu'on n'oublie pas le tabernacle. Et alors, Pinchas, ça va se passer une fois que la terre a été répartie, c'est à l'époque de Yoshua, à l'époque de Josué, Pinchas va revenir là-bas avec une armée pour, en quelque sorte, guerroyer contre cette tribu, pour dire comment ça se fait que vous construisez un Mishkan, qu'est-ce que vous voulez scinder le peuple en deux? Et là, eux vont dire, mais non, pas du tout. On voit que nos enfants sont loin du centre névralgique spirituel d'Eretz Israël, ils risquent d'oublier, c'est pour ça qu'on a fait la réplique du Mishkan, on a fait la réplique du tabernacle. Et là, Pinchas dit, ok, très bien, si c'est ça, c'est très bien. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi vous êtes obligé de faire une réplique alors que l'ensemble du peuple juif vit en Eretz Israël et monte régulièrement au tabernacle pendant les fêtes de pèlerinage, pendant les Shalosh Regalim? Pourquoi vous avez besoin, vous, de créer une réplique? Parce que vous avez failli sur le plan d'éducation, parce que vous avez choisi de mettre en avant vos besoins matériels avant de vous occuper d'abord de ce que vos enfants vont devenir. Et il y a un enseignement qui est compris pour notre génération. Beaucoup de gens veulent faire leur alia. Ils choisissent leur alia en fonction de la maison, de la plage et du travail, et en fonction des amis, et les écoles, et l'éducation des enfants. Je peux vous dire aujourd'hui, puisque avec en compagnie, à l'initiative de Rav Abdelhak, je m'occupe d'une communauté à Natania, Je vois d'un petit peu plus près aujourd'hui les problèmes de Nathania, pas dans cette communauté dont je m'occupe, où là justement les gens ont plutôt fait des bons choix, mais je m'aperçois que beaucoup de familles qui montent en Eretz Israël privilégient pas du tout, du tout, du tout le choix d'une bonne école et le choix d'un bon enseignement et d'un bon environnement pour leurs enfants. Et ici, on voit dans cette paracha combien Moshe Rabbeinu, avec l'œil qu'un dirigeant doit avoir, l'œil qu'un dirigeant doit avoir sur le futur du peuple juif, va remettre en place en quelque sorte les tribus de Gad et Ruben et leur dire attention, vous êtes en train de vous tromper, de créer une véritable catastrophe. Et de fait, ça va se vérifier tout au long de l'histoire. Alors, vous pourrez me dire, peut-être que Moshe Rabbeinu, comme dit le Pnei Moshe, un commentateur, il aurait pu dire, peut-être qu'il aurait pu les juger favorablement. Et que s'il les avait jugés favorablement, il les aurait chargés d'énergie positive, il aurait pu les stimuler. Mais le rôle d'un dirigeant n'est pas que toujours de dire les choses, on va dire, tranquillement et gentiment. Parfois, le rôle d'un dirigeant, surtout de Moshe Rabbeinu, qui appartient à l'univers du da'at, c'est-à-dire du discernement, c'est précisément d'alerter sur les risques. Et si Moshe Rabbeinu a pris le soin ici d'alerter sur les risques, c'est que les risques étaient beaucoup plus importants que ce qu'on aurait pu penser. Et de fait, c'est ce qui s'est vérifié dans la suite de l'histoire donc du peuple juif, et ses tribus donc étaient exilées avant tout le monde. Mais pourquoi elles ont été exilées avant tout le monde? Parce que d'une certaine manière, elles étaient déjà en exil avant même l'exil. Parce que tout homme qui finalement oublie à la fois l'étude et l'enseignement, et en même temps la transmission, ben, finalement, il est plus au centre névralgique de la vie juive. Donc, d'une certaine manière, du point de vue intellectuel, du point de vue moral, spirituel, psychique, il est déjà en exil intérieur par rapport au point central névralgique. L'étude et la transmission, c'est le point central de la vie juive. Et tout s'organise donc autour de ça, et c'est ce que les Bnei Gad et les Bnei Reuven, ici, visiblement, ne comprenaient pas, et que Moshe Rabbeinu va leur rappeler. Alevaï allez-nous, que nous soyons capables de précisément nous souvenir des priorités.
Ah, elle est
Shabbat
magnifique.
shalom.
Shabbat shalom, Rav Mordechai Biton. Vous savez, j'avais entendu une fois une phrase comme ça qui disait: ne dis pas, je n'ai pas le temps d'aller chercher mon fils à l'école. Dis pas ça. Dis, aller chercher mon fils à la sortie de l'école n'est pas une priorité pour moi. Et tu verras que tu vas voir les choses tout à fait différemment. Je trouve cette phrase extraordinaire et j'espère que, un tout petit peu, elle va dans la ligne de ce que vous venez de nous enseigner. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom. Et Chodesh
Shalom,
Tov, on ne sait pas dire Chodesh Tov en début de
Chodesh
la
Tov,
discussion.
Mazel Tov, Bezat Hashem. Que ce mois-là soit le mois du retournement. La consolation et le retournement.
Amen. Et qu'il n'y ait pas de Tisha B'Av. Bonsoir à vous.
Amen.
Shabbat Shalom.
Bonsoir. Shabbat Shalom.
Maria Chadré est en ligne avec nous. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mevorach, Chodesh Tov.
Chodesh Tov, Mevorach.
Maria Chadré, aujourd'hui, le premier Av, Rosh Chodesh Av, est connu pour être la Hiloula de Aaron à Cohen. On connaît exactement la date à laquelle Aaron a quitté ce monde. Et comme Aaron, on le sait, c'est l'homme de la paix, celui qui courait après la paix. Vous voulez en profiter pour essayer de comprendre, ça veut dire quoi, rechercher la paix. Et vous dites déjà, au moins sûr, une chose, c'est qu'il faut apprendre à écouter. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre?
Voilà, c'est ça. Alors, sachez que dans la paracha de notre semaine, c'est là qui est écrit, hein, c'est un verset de la Torah, la date du départ de Aaron HaKohen de ce monde, le premier jour du cinquième mois. Donc aujourd'hui, Rosh Chodesh Av, et en réalité, on n'est pas si étonné que ça, parce qu'en fait, on n'est pas étonné, parce qu'on sait que le mois de Av est un mois triste, c'est le mois le plus triste de l'année juive. Et effectivement, c'est le mois de la destruction, c'est le mois de la séparation, c'est le mois de l'éloignement avec le monde spirituel. C'est le 9 Av, moins 586, que le premier temple a été détruit, et qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus eu de paroles prophétiques. La prophétie a cessé. Et donc, effectivement, c'est le mois de la déconnexion. Et voilà que Aaron HaKohen décède le premier jour du mois de Av, comme pour nous donner une impulsion sur le mois de Av au niveau de la réparation à mettre en place. Tout le mois de Av, nous devons tout faire pour le shalom. Alors, effectivement, comment faire? Alors, pour donner peut-être quelques éléments de réflexion autour de cette notion fondamentale du shalom, Rappelons-nous, au nom du Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, il nous explique qu'est-ce que c'est que la galoute, l'exil, pour qu'on comprenne comment œuvrer dans le tikkun, dans la réparation, dans la direction du shalom. Alors, la galoute, l'exil a trois caractéristiques. La galoute s'exprime par la perte d'un lieu, du lieu de vie. En effet, on a perdu Eretz Israël à ce moment-là. La deuxième caractéristique de la galoute, c'est la soumission à une force extérieure. Nous ne sommes pas libres d'agir. Et enfin, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle la dispersion, l'éparpillement. On a été en effet dispersés en diaspora. Et Rav Shapira d'expliquer que finalement, cette notion-là d'éparpillement est l'élément clé. Cet éparpillement vraiment symbolise ce que signifie que d'être en exil. Et il nous explique que pour pouvoir s'unir à nouveau, se rassembler à nouveau, comment rassemble-t-on des personnes? Comment rassemble-t-on un troupeau? Comment crée-t-on un rassemblement? Eh bien, l'organe qu'il va falloir utiliser, c'est l'oreille, c'est l'ouïe, c'est l'écoute. Et précisément, dit Rav Shapira, dans le livre Sefer HaYetzira, eh bien, chaque mois de l'année correspond à une force fondamentale de l'humain à travailler ce mois-là. Et le mois d'Av, eh bien, sans étonnement, c'est le mois de la shmiya, c'est-à-dire de l'écoute. C'est le mois durant lequel il faut que l'on apprenne à écouter. Et en apprenant à écouter cet appel de rassemblement, qui est le contraire de la dispersion, eh bien, justement, on va pouvoir effectivement se reconnecter, retrouver une proximité, retrouver un lien. Alors, j'aime beaucoup expliquer que finalement, la perte du temple, à nos niveaux, à nous, qui ne nous souvenons pas du temple de Jérusalem, eh bien, c'est la perte finalement de la connexion et du lien. C'est la perte de la proximité. Et effectivement, qu'est-ce qui fait que nous ne savons plus être proches les uns des autres? Eh bien, c'est précisément cette galoute-là, c'est-à-dire l'éparpillement. Si on réfléchit un instant, on verra qu'en réalité, nous sommes tous éparpillés, même à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'on sait vraiment écouter quelqu'un? Est-ce qu'on sait être constant dans une décision que nous prenons? On s'éparpille également dans les valeurs que nous portons, dans les désirs que nous avons. Un jour, on est ici, un jour, on est ailleurs, un jour, nous sommes certains de cette chose et un jour, on pense plutôt à autre chose. Et finalement, on s'éparpille dans des tas de lieux, de lieux réels ou de lieux fantasmés ou imaginaires, hein. Mais on s'éparpille et cet éparpillement personnel nous empêche d'être à l'écoute et je dirais d'être à l'écoute de nous-mêmes. En premier lieu, on n'arrive pas à écouter notre petite voix à l'intérieur de nous et c'est certainement la raison pour laquelle la phrase la plus importante du judaïsme, la phrase clé du monde juif, c'est le fameux « Shema Israël », « Écoute Israël », que l'on doit dire deux fois par jour. « Shema, écoute, sois à l'écoute » et la fin de cette phrase, c'est « Hachem Echad » pour arriver vers cette unité, vers ce « un ». Et pour cela, eh bien, comment faire? Alors, Rav Shapira nous explique la problématique qu'il y a au niveau de l'ouïe. Enfin, la problématique, le fonctionnement en tout cas, le fonctionnement de l'ouïe. Il fait une remarque vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous… En fait, en réfléchissant un petit peu à nos cinq sens, on arrive à cette constatation que l'ouïe, c'est vraiment un sens particulier parce que tous nos autres sens, en fait, sont dans l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on voit, et ce n'est pas parce que je me concentre davantage sur l'image que je vais voir mieux. Je vois ce que je vois en un instant. Quand je ressens un contact physique, que je me concentre ou pas, ce contact existe. Pareil pour le goût, pareil pour l'odorat. Et en réalité, seul l'ouïe nécessite une concentration et une forme d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute. On se met en posture d'écoute. On peut très bien allumer notre radio et entendre une vague voix et on n'a aucune idée de ce qui a été dit. On peut également entendre nos enfants nous parler et être, soit ne pas être concentré, soit être sur nos portables, soit que sais-je, et ne pas entendre réellement ce qu'ils ont à nous dire parce qu'on ne s'est pas tourné vers eux. Et il y a une Gemara dans Megillah merveilleuse qui dit que jusqu'à le dernier prophète, le dernier des prophètes, c'était Malachi, Jusque-là, Hachem s'adressait à nous directement par la voie de la prophétie. Et maintenant qu'il n'y a plus la prophétie, maintenant justement que le temple a été détruit, eh bien, dit le verset, « Hat oznecha »« Tends ton oreille, oriente ton oreille, ou shma divrei chachamim, et écoute les paroles des sages. » Et ce verbe, la « hat », tourne, oriente ton oreille. C'est d'ailleurs le même verbe que la parasha de cette semaine. Matot, les hatot, c'est se tourner, c'est s'orienter, c'est donner une direction. Eh bien, la direction qu'on doit donner, je crois que c'est la direction de notre oreille. C'est-à-dire que avant, même si on ne tendait pas l'oreille, la voix d'Hachem nous parvenait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, nous devons aller chercher cette voix. Aujourd'hui, nous devons être dans une perspective de recherche. Et pour prendre l'exemple de Radio Shalom, eh bien, il faut vouloir ouvrir, allumer le poste de radio et dire « Je sais qu'il y a un Dvar Torah et je sais que ce Dvar Torah va être porteur de sens et je veux tendre l'oreille, être à l'écoute. » Et en fait, l'oreille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des syllabes, elle les colle ensemble et ensuite elle colle les mots et ensuite elle colle les phrases. Et il y a un va-et-vient entre l'intellect et l'oreille qui fait que finalement tout ce qu'on entend s'additionne. Et en s'additionnant, eh bien, ça donne du sens. Mais ce n'est pas seulement la phrase ou le paragraphe qui a du sens. Si on est vraiment à l'écoute les uns des autres, si on est vraiment à l'écoute de la parole de Torah, c'est le principe de la Torah orale, c'est de l'écouter. Nous devons écouter cette Torah orale. Eh bien, si nous sommes à l'écoute les uns des autres, en fait, on fera ce travail intellectuel d'additionner ce qui vient d'être dit à ce que j'ai entendu hier, avant-hier, la semaine dernière. Ce n'est pas possible que l'on vive dans nos foyers avec des personnes proches de nous, époux, épouses, enfants, et que l'on n'écoute pas en nous tournant vers l'autre, en le regardant, en étant vraiment concentré sur les mots et sur ce qu'il y a derrière les mots, sur le monde émotionnel qu'il y a derrière les mots. Et ensuite, il faut faire le travail d'additionner ça à tout ce qu'on a déjà entendu de cette personne, pour qu'il y ait une unité, un echad total, et pour qu'on puisse être finalement dans un retour, pour qu'on puisse donner à la personne qui nous parle quelque chose, une réponse, la réponse attendue dans une perspective justement de s'améliorer, de se bonifier, de bonifier nos relations. Et en réalité, dit Rav Moshe Shapira, quand le 17 Tammuz, les tables ont été brisées, elles ont été brisées en 1000 morceaux et là aussi il y a eu dispersion, éparpillement des tables de la loi. Et la Gemara dans Psachim dit que en vrai, les paroles de Torah se sont dispersées même dans tous les pays du monde et que c'est pour ça que nous sommes dispersés, nous, Israël, parce qu'il y a des guérim, des convertis à ramener. Et Rav Shapira dit, c'est pas seulement des convertis au sens propre, mais c'est aussi finalement des chochmot, des intelligences. Il prend l'exemple de Maïmonide, par exemple, qui a beaucoup appris d'Aristote. Alors, c'est une chorma, c'est une sagesse, c'est une intelligence, et que finalement tout ça, ces intelligences qui sont éparpillées, c'est dû aux débris des tables de la loi qui se sont éparpillées dans le monde, et que nous devons aller chercher un peu partout dans le monde, en tant que chorma bien sûr, hein, en tant que sagesse, et bien sûr pas en tant que Torah, la Torah n'existe que au sein du peuple d'Israël, et nous devons reprendre toute cette sagesse pour finalement retrouver cette unité, cette totalité qui se trouve au sein de notre Torah. Et effectivement, quand nous vivons la Torah, on voit bien qu'il y a la Torah Ashkenaz, la Torah Sépharad, la Torah Chassid, la Torah du Rav Kook, la Torah des Yémanites. Et en fait, c'est ça qui est splendide. C'est ça qui est splendide. C'est-à-dire que le jour où on comprendra qu'il y a toutes ces Torotes-là, qu'il y a que tout ça, en fait, crée une Torah unique, la Torah qu'on a reçue au Sinaï, et que nous devons l'unir, la rassembler, et non pas Dieu préserve, éloigner les uns ou les autres, leur dire qu'ils ne sont pas valables, qu'ils ne sont pas considérés, et considérer que sa propre Torah est la seule qui ait du sens. Non, justement pas. Pendant toute cette période-là, où nous devons être à l'écoute, où nous devons créer le shalom, eh bien, sachons ramasser tous ces petits débris de table de la loi qui sont éparpillés dans le monde, et sachons orienter toute notre Torah vers cette unité pour qu'on puisse dire le vrai schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad.
Qu'est-ce que c'est beau, hein. Et par ailleurs, je voulais que je vous dise, qu'est-ce que c'est beau de dire ça à la radio. Parce que moi, j'ai toujours aimé ce média. C'est pas parce que c'est le mien. J'ai choisi ce média parce que c'est tellement beau de parler à la radio. On entend ce qu'on dit, les gens peuvent se concentrer dans leur voiture. J'adore, j'ai vraiment... Et je pense que c'est l'une des richesses de cette émission qu'on anime depuis des années avec vous, Maria Chasse, Un vrai régal. Mariacha, je vous souhaite donc un Chodesh Tov et un Shabbat Shalom.
Voilà, et qu'on soit tous à l'écoute les uns des autres.
Les uns des autres. Et parler un peu moins, ça fait du bien aussi. c'est un spécialiste hein, qui vous parle, connaisseur. Savoir un petit peu se taire, ça fait du bien à tout le monde. Bonsoir à vous, Mariacha. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Vous retrouvez Onek Shabbat dans une minute avec le chanteur Raphaël Luzan, le meilleur de la musique juive. Moi, je vous avoue que je suis fan de cette émission, autant que je le suis de Kabbalat Shabbat. C'est une autre forme d'émotion. Donc, Raphaël Luzan tout de suite pour Onek Shabbat. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour un journal complet qui sera enregistré.
Shem lo yivne ba'yit, shom le'voy na'voyim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai. Yom Hashem lo yivne ba'yit, shom le'voy na'voyim, Hashem lo yishmarich, shav shokat shoymai.